Entre humus et soufre, entre sacralisation de la nature et sa gestion avide, y a-t-il une troisième voie? Le pasteur Didier Fievé nous invite à la réflexion.
Salut et bonne année à vous. C'est entre soufre et humus. Quelle place pour l'humain dans l'histoire du monde? Quelle place pour l'humain dans le monde? Quelle place pour l'humain dans l'histoire de la planète? Et c'est toute une histoire. Oui, bonne année à vous. Bien sûr, ce sont des mots attendus. Bien sûr, ce sont des mots qu'on dit trop vite. Et pourtant, ils sont l'expression d'une vraie sympathie, et pourtant ils sont sincères. Mais, me direz-vous, qu'est-ce que ça veut dire, bonne année? Qu'est-ce que ça veut dire quand on est en pleine crise agricole, quand on est en pleine crise géopolitique, quand on ne se cache même plus derrière de vertueux prétextes pour instituer le vol comme légitime, pour peu qu'il soit commis par le plus fort. Bonne année. Comme une formule pieuse, comme pour mieux feindre de ne rien voir, de n'avoir rien vu. Élégance du désespoir, peut-être, comme un sourire au bord du précipice qui va nous engloutir. Qui sait? Entre souffle et humus, qu'est-ce que l'être humain? Les mémoires protestantes qui nous écoutent se souviendront sans doute des paroles du psaume 8 qui s'adresse à Dieu en disant « Qu'est-ce que l'humain pour que tu en aies souci? Quel est cet animal étrange capable de se suicider ?» Par désespoir, on pourrait le comprendre. Et d'ailleurs, peut-être y a-t-il des comportements animaux qui font place à une forme de désespoir, à une forme de défense à tout va. Ainsi la guêpe, qui se défend d'une piqûre qui va lui être fatale. Ou bien les moutons, on dit ça d'eux, qui sautent de la falaise, pris dans une panique collective. Qui sait? Mais le désespoir des humains n'est pas seulement, je crois, un mouvement de défense réflexe. Et surtout, ce qui me frappe, c'est qu'Homo sapiens est capable de se suicider consciencieusement, méthodiquement, à petit feu, par déni, par indifférence, par dérision. Peut-être par une haine de lui-même, par une détestation de ses limites, par une détestation de sa finitude. À toujours vouloir les repousser, à toujours vouloir les dépasser, ses limites. Il y a peut-être la tentation inconsciente de se fondre dans un cosmos sans début ni fin, de s'anéantir dans un tout. Qui sait? Quel est cet étrange animal qui puisse ainsi perdre son instinct de survie, hormis peut-être dans les situations de danger immédiat? Nous savons que le Venezuela et le Groenland sont convoités. Nous savons qu'ils sont menacés d'agression et d'annexion, par la force militaire, s'il le faut. Nous savons, la cause de cette convoitise, c'est à cause de leur sous-sol. Nous le savons et nous ne faisons rien. Nous nous laissons happer par une spirale qui semble plus forte que nous. Et d'ailleurs, qu'est-ce que nous pourrions faire? La guerre? Serait-ce mieux? Groenland et Venezuela sont déjà, en fait, annexés, parce qu'ils occupent sur le planisphère une position stratégique, parce que leur sous-sol serait capable de produire un peu plus de pétrole, un peu plus de ceci, un peu plus de terres rares, parce qu'ils pourraient ainsi permettre à la machine monde de continuer à se précipiter collectivement du haut de la falaise. On ferme les yeux. On continue la course folle. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'à quand? On lance des « bonnes années à tout va » pour faire semblant. On pourrait même y voir une certaine noblesse, un certain panache, désespéré, tout autant que désespérant. Un ultime sursaut de vanité. Un enfermement coupable et aveugle. Coupable de vouloir garder les yeux fermés. Mais le problème, c'est quand on ouvre les yeux, le tableau que l'on voit semble tellement brouillé, confus. Il y aurait comme du Jérôme Bosch avec ces diaboliques petites créatures qui nous dévorent, qui se repaissent de nos miasmes en même temps qu'ils nous les inoculent. Il y aurait du Picasso, la gravité sombre d'un Guernica, mais qui peu à peu se déstructurerait. Monde sans issue, dédale infernal, et la froideur glacée d'un monochrome blanchâtre, livide, froid. Retour au monde minéral. Le tableau est insoupçonnable et de confusion et d'angoisse. Musée de nos désespoirs sidérés. Alors, on va aux expositions et on dit « Ah, c'est bien notre époque !» Comme si justement, ce n'était pas notre époque. Comme si justement, on n'en était pas de ce monde-là. Ou plutôt comme si on en était sans en être. Comme si on n'était pas concerné. Comme si on se complaisait dans un monde, dans un spectacle du monde plutôt, qui se meurt. Et comme si on s'y complaisait, passif et incrédule. Mais d'où nous vient donc cette mélancolie désabusée? Qu'est-ce qui nous tient ainsi dans la sidération? L'inconscience ou le déni? L'incrédulité? Ou la désespérance? Qui sait?
There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still unknown? Why are the missiles called peacekeepers when they're aimed to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. Time is coming soon. Amidst all these questions and contradictions, there's some who seek the truth. But tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us if there are people still unknown? Why are the missiles called peacekeepers when they're aimed to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace. All is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon. When the blind remove their blinders and the speeches speak the truth. Tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us if there are people still alone? And why are the missiles called peacekeepers when they're aimed to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free.
Puisqu'on est sur FM+, dans cette émission mensuelle entre souffle et humus, une émission qu'on a appelée écolo-protestante, ben vous ne serez pas étonné que je vous propose deux références bibliques. La première, c'est dans l'évangile de Marc. C'est un tout petit verset au chapitre 13, dans lequel Marc fait dire à Jésus « Veillez donc, car vous ne savez pas quand c'est le moment. » Quelques éléments, comme ça, pour situer l'histoire. Tout ce chapitre 13 est consacré à l'annonce de ce qui ne va pas, de ce qui va arriver de terrible, d'une fin du monde imminente. Le temple qui va être détruit, le temple, le lieu identitaire, le lieu des sacrés, va être réduit à rien. Il n'en restera pas pierre sur pierre, dit le Jésus de Marc. Entre Gaza, la Syrie, le Liban, l'Ukraine et tant d'autres contrées, combien de lieux aujourd'hui supposés sacrés, combien de lieux emblématiques sont ainsi réduits à rien. Le texte poursuit, il y aura des usurpateurs qui parleront faussement au nom de Jésus. Combien de sectes évangéliques aux États-Unis et en France, combien qui se prétendent fidèles, qui prétendent ainsi détenir la vérité et qui s'égarent dans des spéculations assassines parce qu'elles prédisent telle ou telle chose, parce qu'elles cloisonnent les bons et les mauvais, parce qu'elles discriminent, parce qu'elles rejettent, parce qu'elles obligent à se coucher sous les fourches codines de leur façon de voir le monde, de leur théologie, de leur idéologie. On a tout pu justifier avec une Bible à la main, quand on la prend pour un revolver. L'Inquisition, les croisades, l'apartheid, l'antisémitisme, la violence, l'annexion de la Cisjordanie, et même l'invasion de l'Ukraine avec la bénédiction du patriarche. Tout dépend du rapport qu'on entretient avec le texte. Tout dépend de notre capacité à le lire, à le respecter vraiment, pas à lui faire dire ce que l'on croit déjà. Tout dépend de la distance que l'on prend avec lui. Tout dépend de l'inspiration plus ou moins vénéneuse qui nous anime. Bref, le Jésus de Marc annonce une grande détresse, des guerres, des catastrophes naturelles, un mensonge généralisé, la confusion entre le bien et le mal, trahison, ruine de toute confiance. Il nous décrit, somme toute, le monde d'aujourd'hui, quoi. Cependant, il ajoute, oui, mais c'est dans ces douleurs-là qu'il faut considérer comme des douleurs de l'enfantement, c'est là que va survenir le Fils de l'homme, celui que l'on appelle le Christ. Il faut entendre, c'est dans la désolation, c'est dans la confusion et dans l'accumulation de ces malheurs, c'est là que Dieu apparaît, de façon étrange. Mais c'est bien ce qu'on vient de fêter à Noël, non ? C'est là, dans ce bain de malheur, que Dieu paraît, dans ce bain d'angoisse sans fin, c'est là que jaillit l'espérance. Non pas comme ce que l'on a déjà dans les bagages, mais comme ce à quoi on n'avait pas pensé et qui survient. Ce moment particulier, l'advenue d'une nouvelle possibilité. Je dirais l'advenue de la possibilité d'une possibilité. Et c'est là qu'apparaît ce petit verset. Veillez donc, car vous ne savez pas quand c'est le moment. Beaucoup d'entre vous qui ont l'habitude d'entendre ce verset au culte le dimanche matin, ou qui ont lu la Bible, ou qui sont allés au caté, beaucoup d'entre vous diront « Mais c'est pas ce qu'on entend d'habitude. » Habitude. D'habitude, on entend « Veillez donc, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » Avec le verbe être au futur. « Quand ce sera. » Eh oui, sauf que le grec est formel. Le grec du Nouveau Testament, c'est la langue dans laquelle il a été rédigé, le grec est formel. Malgré l'apparente dissonance des temps, le verbe est au présent. Veillez donc, car vous ne savez pas quand c'est le moment. Ce qui signifie que la fin des temps dont il est question, c'est au présent. Ce n'est pas la fin du monde projeté à l'échelle cosmique dans quelques millions ou milliards d'années. C'est la fin d'un monde qui se meurt vers un monde qui vit. Et ça peut être ici et maintenant. Tu ne le sais pas. Il faut en finir avec ces spéculations sur la fin du monde. Ça fait des millions d'années que ça nous tient. Il faut en finir avec ce ciel qui va nous tomber sur la tête, ces peurs toutes païennes que reprennent encore des chrétiens qui se croient fidèles. Il faut cesser de donner à cette fin du monde une dimension que j'appellerais diachronique, que certains appelleront une dimension historique, quelque chose qui se déroule dans la continuité et la linéarité de l'histoire. Une fin du monde dont on pourrait dater l'apparition. Ce n'est absolument pas le propos de l'évangéliste. Ouvrez l'œil, car vous ne savez pas quand c'est le moment. Au présent, ce moment, ce que les Grecs appellent le kairos, ce moment, nous n'en disposons pas. C'est le temps du rendez-vous. C'est le temps du rendez-vous avec une prise de conscience. C'est le temps du rendez-vous avec un réveil. C'est le temps du rendez-vous avec une éclosion des yeux, si j'ose dire. Ce rendez-vous, nous n'en disposons pas. C'est pour ça que nous devons être vigilants, que nous devons essayer de garder l'œil ouvert pour pouvoir saisir l'opportunité. Dieu est dans ce peut-être. Dieu est dans ce peut-être qui peut arriver peut-être. Je suis pouvoir d'être. C'est ainsi qu'on pourrait traduire la fameuse formule « Je suis qui je serai » sous laquelle Dieu se présente à Moïse à l'épisode du buisson ardent, vous savez. Quand Moïse lui dit « Mais quel est ton nom ?» Il répond « Je suis qui je serai. » Dieu est peut-être. Dieu est potentialité d'être. Le rendez-vous avec cette potentialité de vie, avec cette potentialité de sursaut vital, ce rendez-vous-là, encore une fois, ne nous appartient pas. C'est un instant décisif qui survient hors de nous-mêmes, comme la fulgurance du désir, comme tout ce qu'il y a d'impossible à programmer dans la survenue, dans l'advenue de l'amour. La foi chrétienne, elle se tient là, dans cette patiente impatience. C'est le moment. C'est toujours le moment quand il survient. Du coup, il y a une façon de veiller qui consiste à vouloir réveiller tout le monde, c'est-à-dire à vouloir faire vivre les autres selon notre propre chronologie. Et j'allais même dire selon notre propre chronobiologie. Ne faire confiance qu'à l'urgence qui nous habite. Et en général, ça saoule tout le monde. Au mieux, ça nous gave. Au pire, ça nous enrôle. Bien sûr que dans cette urgence que l'on voudrait imposer aux autres, il y a une composante totalitaire. Il y a une composante impérialiste. Mais il y a une autre façon de veiller, qui elle s'inscrit dans la confiance, qui ne se condamne pas pour autant à se taire, qui ose dénoncer ce qui doit être dénoncé, qui ose dévoiler ce qui est tenu caché, qui ose démasquer, mais qui le fait avec ce que j'appellerais la douceur de la confiance. Et si on dit que c'est le moment, eh bien, c'est le moment de la confiance.
Shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. really sure how it goes. But it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La 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 la. Song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. Now, John at the bar is a friend of mine. Gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me, as a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. La 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 la. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife, and he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. Men slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone. Sing us a song, you're the piano man. Song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar and say, man, what are you doing here?
Un second texte biblique dont je voudrais vous parler aujourd'hui. C'est un récit de tempête. Et je crois, d'après la météo, que c'est de mise. Ça se passe dans le livre des Actes des Apôtres. Paul, un des apôtres, doit aller à Rome pour y être jugé par le pouvoir central. Il a créé bien des troubles dans l'Empire et, en tant que citoyen romain, il doit être jugé à Rome. Au moment de prendre le bateau, une tempête s'annonce. La tempête, quoi. Tout le monde, équipage compris, tout le monde a peur. Matelot comme capitaine. Paul prend la parole, et avec une autorité qui n'aurait pas dû lui revenir, mais bien au commandant, il distribue les tâches. On amarre tout ce qui risque de partir à la mer, on ferle les voiles, on mouille des cordages de façon à essayer d'aplatir les vagues qui voudraient déferler et briser sur le pont et submerger le navire. Bref, on fait tout ce qu'il faut pour naviguer sur un voilier peu défendu par gros temps. Mais surtout, Paul ajoute quelque chose qui me semble important. Avec beaucoup d'assurance, tout le monde sera sauvé si on reste tous ensemble sur le bateau. La tempête passe, le bateau tient bon, l'équipage se sèche, bien vivant. Sauf ces quelques-uns qui ont perdu confiance et qui ont quitté le navire, qui ont cru s'accrocher à une planche et ont péri. Évidemment que Luc, l'auteur du livre des Actes, n'avait pas pour intention de nous apprendre à naviguer sur un voilier par gros temps. Évidemment que le récit est métaphorique. Dans la tempête, faites ce qu'il faut. Mais surtout, demeurez ensemble. J'entends bien. Elle m'a caressé longtemps et je l'ai caressé aussi. J'entends bien la tentation du repli au Larzac ou bien au fin fond de l'Ariège. Tout est foutu. Il suffit de regarder autour de nous. Et tu le dis toi-même. Tout le monde fait la sourde oreille. Ils s'en fichent des baleines qui s'échouent, des marées noires, de la forêt tropicale qui est mise à sac pour cultiver leur foutu soja, que vont bouffer leurs bœufs, qui vont dégouliner sur leurs étals obscènes. Tout le monde ne se souhaite une bonne année retentissante en pensant à la prochaine bagnole qu'ils vont acheter, alors que la terre se meurt. Alors non, pas en mon nom. Je rends mon billet. Je ne veux pas de ce monde-là. Pas en mon nom. Je n'ai rien à y faire. Je ne veux plus rien avoir avec lui. Bien sûr que je comprends cette tentation. Ma montagne et mes chèvres, entre autarcie individualiste et entre soi alternatif. Cette échappatoire, je ne peux la considérer qu'avec sympathie, parce qu'au moins ceux-là et ceux-là vivent un peu plus en cohérence avec ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ou elles voient. Au moins demeure-t-il ou demeure-t-elle éveillée, au moins tente-t-elle ou tente-t-il de saisir le moment, au présent. C'est leur rendez-vous avec la vie vivante. Sauf que ça ne se décrète pas. Sauf qu'on est toujours dépendants les uns des autres. Et tant mieux. Tant mieux parce que se sauver soi-même en laissant les autres mourir, c'est se perdre aussi. Je comprends et je salue le « pas en mon nom ». C'est un engagement courageux et certes un peu plus avisé que le « fermer les yeux » habituel et résigné. Mais on ne se sauve pas tout seul. Ça ressemble bien trop à une fuite. On s'enfuit d'un monde qui lui-même fuit, dans tous les sens du terme. Un monde qui est en fuite devant la tempête et un monde qui est percé et qui laisse fuir sa matière vitale. Eh bien, j'entends et je voudrais partager avec vous que l'Évangile se tient là, comme une offre désespérée, entre l'impossible fuite en avant et la fuite hors du monde. Le kairos, l'opportunité, le bon moment, c'est de saisir l'offre. C'est d'ouvrir les yeux sans détourner le regard, sans sombrer pour autant dans la désespérance, sans céder à la tentation d'une solution radicale qui serait tout aussi totalitaire que l'est la société technico-financière qui nous étouffe. Et sans céder non plus à la tentation du repli sur soi. Ouvrir les yeux, rester vigilant parce que c'est le moment. Parce que je ne sais pas quand c'est le moment, mais que c'est le moment bientôt. Accepter de se mettre en chemin, même un petit pas, se mettre en chemin. C'est peut-être ça, ce qu'il faut entendre par « Bonne année !» Allez, salut, au mois prochain.